Vos radiateurs sont pas gelés? Oui, on est content de se revoir. Amen. Donc, ce matin, on va faire la conclusion de la série La famille de Dieu. Ça fait plusieurs mois qu'on est dans cette série-là. On a regardé les bases de la famille de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a commencé à faire? Comment on fait partie de cette famille-là? Qu'est-ce que ça change dans notre identité, dans notre destinée et tout ça? Et comment est-ce que l'Église, c'est la famille de Dieu? Sans Dieu, pas d'Église, pas de famille. Dieu est notre Père par l'adoption que nous avons en Jésus-Christ. Et si tu ne te reconnais pas là-dedans, bien, viens me voir après, ça va me faire plaisir. Et dans les derniers plusieurs mois, 4, 5 mois, on a regardé c'est quoi vivre dans la famille de Dieu, comment on fait pour vivre cette famille-là. Mais voici le verset thème de la série. Répétez avec moi. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. C'est intéressant parce que vous n'êtes plus des étrangers. Ça veut dire que vous étiez, à un moment donné, étrangers. On ne vient pas au monde en faisant partie de la famille de Dieu. Comment on fait pour faire partie de la famille de Dieu? Il faut passer par Jésus-Christ. Il faut avoir cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, le Sauveur du monde, celui qui est venu nous mettre en relation avec le Père. La Bible dit que nous sommes tous séparés d'avec Dieu et que Jésus est venu pour combler cette séparation-là. Mais ce n'est pas automatique. Tu dois le rencontrer, toi. Toi et lui. Et tu dois te reconnaître comme pécheur pour lequel il est venu, lui, mourir à ta place à la croix. Et c'est là, lorsque tu, comme on l'a dit, décides de suivre Jésus, décides de te donner à lui parce qu'il s'est donné à toi, parce qu'il a fait le premier pas, et maintenant tu réponds, eh bien c'est là, la Bible dit, que tu deviens enfant de Dieu. Es-tu enfant de Dieu? As-tu déjà expérimenté ça? C'est comme ça qu'on rentre dans la famille de Dieu. Ce n'est pas d'être membre de l'Église ici, là. La famille de Dieu, c'est beaucoup plus grand que ça. Mais c'est quand même restreint. Ce n'est pas tout le monde. Vous étiez étrangers, vous n'êtes plus étrangers. Vous étiez des gens de passage. Oh, oh boy. Ça veut dire des itinérants. Vous savez, c'est quoi un itinérant? Il n'y a pas de chez lui. Si tu n'es pas en Christ, là, tu n'as pas de chez toi éternel. Tu peux avoir un chez toi ici sur la terre, mais tu n'as pas de chez toi éternel. Tu vas être un itinérant pour l'éternité. Ouf! Ça donne des frissons, là. Ça donne des frissons. Qu'est-ce qui se passe avec toi après la mort? Vas-tu être un itinérant pour l'éternité, séparé de la face de Dieu? Il y a juste une solution. Tourne-toi vers Christ. Tourne-toi vers Christ. Tu ne seras pas jamais assez bon pour que Dieu t'accepte sur tes propres mérites. La Bible dit qu'aucune de nos bonnes œuvres peut payer pour nos mauvaises, pour nos fautes. Aucune. Il n'y a que le sang de Christ versé à la croix qui peut enlever cette culpabilité-là devant Dieu. Il faut que tu viennes au pied de la croix et là, recevoir le salut de Christ, recevoir l'adoption pour faire partie de cette famille de Dieu. Maintenant, ce matin, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, parce qu'on va faire une petite révision des dernières choses qu'on a vues ensemble. Et puis, avant de conclure la série ce matin sur l'amour, le principe de l'amour, la valeur de l'amour dans nos relations, c'est tellement, tellement important. Mais, vous savez, il y a quelques semaines avant les fêtes, on a fait des groupes de discussion pour ceux-là qui étaient là. Puis, je reprends un petit peu ces questions-là pour pouvoir faire une révision. Okay? Ça va aller assez vite. Je m'excuse pour ceux qui n'étaient pas présents depuis le début, là. Mais, on va regarder au chapitre 4 d'Éphésiens. Les réponses, ce n'est pas moi qui les ai, sont là, sont dans la parole de Dieu. OK? Fait que vous pouvez les trouver aussi bien que moi. Mais je suis là pour vous aider à les découvrir. Ça marche? Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur notre Dieu, Papa du ciel, souverain créateur de l'univers, roi immortel, invisible, seul Dieu, à toi, Seigneur, à toi soit la gloire et l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Seigneur, on s'humilie devant ta sainte présence ce matin pour reconnaître que tu es Dieu, pour te révérer, Seigneur, l'Éternel, l'Ancien des jours. On veut se voir comme petit ce matin et comme toi, notre grand roi, créateur, rédempteur. Saisis nos cœurs ce matin de ta parole, Seigneur. Tourne vers nous ta face. Fais briller sur nous ta face et accorde-nous ta grâce, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un esprit de sagesse et de révélation pour te connaître ce matin. Oui, révèle-nous ta pensée par ton Esprit Saint. Viens, Saint-Esprit, crée en nous un cœur nouveau. Renouvelle en nous un esprit bien disposé pour recevoir la Sainte Parole et la mettre en application. On chasse toute autre voix en ton nom, Seigneur Jésus, ce matin. Viens, Saint-Esprit, nous révéler la pensée intime du Père pour la gloire de Jésus. Amen. Donc, la première question, selon les versets 17 à 31 d'Éphésiens 4, quel est l'obstacle numéro un à l'unité et la collaboration dans l'Église? Voici donc ce que je vous dis, dit Paul. Est-ce que je vous déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement du cœur, etc., etc. On a vu que l'être humain, à partir de Genèse chapitre 3, s'est détourné de Dieu. Avant, il était complètement quoi? Centré sur Dieu. Tout son être, corps, âme, esprit, centré sur Dieu. Mais là, il s'est détourné, l'être humain. Et il devient le centre. Lui-même, le centre. C'est ça la pensée des païens. C'est ça la vie égocentrique. Je suis au centre. Parce que le vide qui a été créé lorsque l'être humain s'est détourné de Dieu, il faut que ça soit rempli par quelque chose. Soit un faux Dieu, ou soit moi-même. Donc, c'est quoi l'obstacle numéro un? Parce que là, dans le contexte, on parle des dons dans l'Église, de s'édifier, de vivre cette belle unité, etc. Mais là, Paul arrive et dit, moi, je vous dis, vous ne devez plus marcher, vivre, conduire ta vie comme des païens. C'est quelqu'un qui n'a pas connu Dieu. C'est étranger à Dieu, qui est centré sur lui-même, sur ses pensées, sur ses désirs. Donc, on a dit que c'était la vie égocentrique, l'égocentrisme, le désir d'être le centre de l'attention, de l'approbation. Ça va nous pousser à rechercher le contrôle, l'indépendance. On met nos besoins avant ceux des autres parce qu'on est au centre. On craint le rejet, ne pas être reconnu ou appuyé. Les autres se sentent par contre diminués ou étouffés. Vous vous rappelez de ça? Je vous rappelle ça parce que c'est tellement, tellement important. Et si on ne fait pas attention à ça, qu'est-ce qui se passe? Subtilement, sournoisement, l'égocentrisme rentre dans l'Église. Et là, on est surpris qu'il y a des conflits, il y a des chicanes, il y a des situations difficiles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait attention à ça. On a supposé que j'arrive ici, puis moi, je suis correct. Je suis correct. Je crois en Dieu, puis je crois toutes les bonnes choses, mais je ne réalise pas que je suis au centre. C'est l'obstacle numéro un pour qu'on vive la belle relation de la famille de Dieu. Amen? On a vu ça? OK. Merci. Question, quelles sont les caractéristiques d'une vie égocentrique? Bon, c'est bien beau, mais y a-t-il des signes, des caractéristiques de cette vie-là? On a lu un livre, plusieurs vous avez commandé le livre de Paul Tripp et Tim Lane, « Nos relations, des bénédictions compliquées ». Donc, quelles sont les caractéristiques de cette vie-là? Est-ce que vous vous rappelez de certaines de ces caractéristiques-là? Auto, ça commence tout avec auto. Autosuffisance. Auto. Autonomie. Encore? Bon, je vais vous rafraîchir la mémoire. Autonomie, autogestion, avoir raison, décider, dominer, faire arriver notre propre volonté. Oh non, ça n'arrive pas dans l'Église, hein, non? Mais tout le monde, faut qu'il croie comme moi. T'as pas la bonne conviction, faut que tu croies comme moi. On recherche le contrôle, l'autorité, on craint le contrôle. Les autres se sentent par contre contraints, manipulés. L'autonomie. Ensuite, l'autosuffisance, le désir de l'indépendance, ça ressemble à l'autonomie. D'être capable tout seul. Être capable tout seul, craint la dépendance. Pourquoi tu ne demandes pas à ton frère de t'aider quand c'est temps de faire un projet chez vous? Ah non, je ne veux pas être redevable en personne. Je ne veux pas déranger les autres. OK, peut-être. Mais est-ce que peut-être qu'il se cache en dessous de ça aussi un désir d'être autosuffisant? De ne pas avoir besoin de personne? Par contre, les autres se sentent ignorés ou sous-estimés. La prétention ou l'auto-justification a soi-même comme standard, se voit comme juste en lui-même, image élevée de sa propre justice, recherche avoir raison sur le plan moral, bien paraître, craint avoir tort ou être trouvé en défaut ou coupable. Auto-justification. Toutes ces choses-là dépendent, découlent de l'égocentrisme. Dieu n'est pas au centre, c'est moi. Donc, moi, je deviens la référence. Et je suis très capable de juger les autres. Mais je suis très aveugle à mes propres fautes. Ça, c'est l'auto-justification. Toutes des caractéristiques. L'auto-satisfaction. Bien, cherche à satisfaire ses désirs en dehors de Dieu par toutes sortes de moyens. Recherche son propre plaisir, mais demeure insatisfait, exigeant. Craint que les autres viennent faire obstacle à son plaisir personnel. Les autres se sentent comme des objets. Et on a parlé, hein, les hommes, comment nous, des fois, on traite nos femmes de cette façon-là. L'autodidacte a soi-même comme référence et sa propre source de vérité et de sagesse. Recherche à promouvoir son opinion. Résiste à être enseigné. Ne tolère pas avoir tort. Craint qu'on lui dicte quoi penser, dire et faire, rejette l'autorité. Les autres se sentent comme inférieurs, pas respectés, traités avec condescendance. Voyez-vous que, comme j'ai dit souvent, tu n'as pas besoin d'essayer de faire mal aux autres. Pense juste à toi et tu vas automatiquement faire mal aux autres. Automatique. Tu es autodidacte, bien, les autres vont se sentir inférieurs, pas respectés, traités avec condescendance. Parce que c'est toi qui as raison. Parce que toi, tu es ta propre autorité. Ça n'existe pas dans l'Église, ça, hein? Oh non! Mais finalement, l'autoprotection. Ça, c'est très fort. Parce que Dieu n'est plus là, Dieu n'est plus au centre, eh bien, ma source de protection devient qui? Moi. Je cherche la sécurité avant tout. Ne pas faire confiance aux autres qui sont vus comme potentiellement dangereux. Retire des relations. Voyez-vous comment ça nuit pour l'Église? Voyez-vous comment ça nuit? Comment peux-tu participer à la vie familiale si tu as ça dans ton cœur, mon frère, ma sœur? C'est normal, tu as eu mal. C'est normal, on t'a blessé, tu veux te protéger. Mais ça vient faire obstacle. Ça vient faire obstacle aux relations. Évite toute situation d'intimité, de révélation de soi. Non, non, je ne veux pas qu'il vienne fouiller dans ma vie. Je ne veux pas qu'elle me pose des questions sur ma vie. Mêle-toi de tes affaires. Ça ne te regarde pas. Je suis là dimanche matin. Garde, sois content. Crains l'humiliation, la honte, la douleur du mépris. Les autres se sentent exclus, pas importants à juger. Est-ce que ça veut dire que j'ai du mépris pour quelqu'un qui fait ça? Non, je le comprends. D'abord, chacun de nous est un petit peu pris avec ces choses-là. Parce que dans notre nature, dans le naturel de l'être humain, c'est ça. Depuis que l'être humain s'est détourné de Dieu, c'est l'égocentrisme et toutes ces choses-là en découlent. Quelles caractéristiques semblent être particulièrement présentes dans ta vie? C'est une question à réflexion. Je vous ramène ces choses-là pour réflexion. Ensuite, une autre question. On a vu dans ce passage-là, dans Éphésiens 4, ramenez-vous dans Éphésiens 4, là, si vous avez votre Bible, si vous avez votre application sur votre cell, Éphésiens 4. On arrive au verset 30, puis Paul il dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de rédemption. » OK? C'est un verset qui est très bien connu. Alors, on se dit, comment on fait pour attrister le Saint-Esprit, hein? Comment on fait pour attrister le Saint-Esprit? La réponse n'est pas ici, c'est dans le texte. Comment on fait? C'est quoi qu'il dit avant? C'est quoi qu'il dit dans tout le passage? Ça a rapport avec quoi? Notre langue. Verset 25, « Renoncez au mensonge, que chacun de vous parle la vérité avec son prochain. » Verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. La colère, c'est contre qui? Contre quelqu'un dans l'Église? Verset 28. Voler? Dérober? Verset 29. Aucune parole mauvaise. Le mot, ça veut dire littéralement pourri. Blessante. Toutes ces choses-là, c'est dans quel domaine? Après ça, Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, là. C'est dans le domaine de nos relations. De nos relations. Tu veux attrister le Saint-Esprit? Ben, fais juste pas porter attention aux relations que tu as avec tes frères et sœurs dans l'Église. Et tu vas l'attrister. C'est drôle, hein? C'est dans le domaine de nos relations. Verset 31, que toute amertume, animosité, colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, c'est ça qui attriste le Saint-Esprit. C'est ça, frères et sœurs, qui attriste le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne et imaginer que c'est correct avec Dieu si tu es isolé de tes frères et sœurs ou si tu es en mauvaise relation avec tes frères et sœurs. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne dans l'isolement et croire que tout va bien. Ça attriste le Saint-Esprit. Ça va? Autre question. Selon les versets 21 à 24, comment fait-on pour commencer à avoir une vie christocentrique? Parce que la vie égocentrique, c'est le premier obstacle à la vie de l'Église, dans la famille de l'Église. Donc, il faut vivre plutôt une vie christocentrique. Chacun de nous. Hein? Comment on fait? Est-ce que ça arrive automatiquement? Comment? Il faut d'abord se dépouiller. Dépouiller de quoi? Oui, de notre ancienne nature, de notre vie égocentrique. Donc, il y a une action, il y a un détournement. Il y a un détournement de cette vie-là. C'est actif, ça te prend une décision de ta part. Une fois pour la vie? Non. À tous les jours, Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il meure à lui-même et qu'il me suive à tous les jours. À tous les jours. Ça commence dans l'intimité avec le Seigneur. La vie christocentrique se distingue par une volonté de laisser mes pensées et toute ma personne être orientée et transformée par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. C'est une décision consciente. C'est conscient, là. C'est volontaire. C'est intentionnel. Intentionnel. Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas vivre ma vie comme anciennement où est-ce que j'étais le centre de ma vie, au centre de ma vie. Seigneur, aujourd'hui, dimanche, lundi, mardi, tous les jours de la semaine, aujourd'hui, Seigneur, je veux me dépouiller de cette vie-là et je veux vivre une vie centrée sur toi. Tes pensées viennent éclairer mon esprit, viennent prendre le contrôle. Ce n'est pas automatique ni passif. Ça requiert que je me dépouille de ma vie égocentrique, que je me revêt de l'homme nouveau que Dieu a créé en moi lors de la nouvelle naissance. Cette nouvelle nature qu'on reçoit lorsqu'on vient au pied de la croix et on dit, Seigneur, sauve-moi, je te donne ma vie. On a à ce moment-là une nouvelle naissance, une nouvelle nature qui nous arrive par le Saint-Esprit. Mais on doit revêtir à chaque jour cette nouvelle nature-là. Amen. Amen. Ça achève. Ça achève la révision. Ça marche? Dans quelle sphère de nos vies se manifestent les caractéristiques de cette vie-là? Dans nos relations, dans nos... Je suis tanné avec ça, hein? Mais l'Église ici, là, si vous voulez faire partie de l'Église ici, là, vous allez entendre parler de nos relations constamment. Constamment. Il est bien tanné avec ça, Brian, les relations. Ouais, mais c'est là que ça se vit, la vie christocentrique. La vie christocentrique, là, ça se vit pas dans ta tête avec ce que tu comprends des Écritures. Ce n'est pas de ce que tu crois être vrai, toutes les doctrines. Bon, j'ai tout ça classé là, moi. Ouais, moi, je pense que c'est bon. C'est ça. C'est de l'égocentrisme. Tu es centré sur toi. Tu ne réalises pas, là. Tu es centré sur toi. Montre-moi comment tu vis en relation avec tes frères et sœurs, puis je vais dire si tu es christocentrique ou égocentrique. C'est là que ça se passe. Christ, là, il s'est pas contenté de rester au ciel puis d'envoyer des pamphlets sur la terre. Regardez, je vous aime. D'envoyer des fax ou des courriels ou des textos, je vous aime. C'est Dieu qui parle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu en chair et en os habiter parmi nous. Il a été en relation avec les gens. Il a souffert avec eux. Il s'est réjoui avec eux. Il a vécu toute sa vie avec des gens. Et le but de ça, c'était de nous montrer c'est quoi le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est un cœur relationnel. D'abord, on a la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Ils sont en relation constante, intime, glorieuse. Et le message de l'Évangile, c'est qu'on peut participer à cette relation-là. On est invité à se joindre à cette communion-là, à faire partie de cette famille-là qui est déjà là. Wow! Wow! La vie chrétienne, c'est une vie relationnelle. Tu as de la misère dans tes relations? Moi aussi. C'est tannant, les relations? Oui. C'est fatigant, les relations? C'est épuisant, les relations? Oui. C'est de la bullshit, les relations, des fois. Désolé, mais c'est vrai. Des fois, j'ai comme le goût de dire, oh, ça vaut pas la peine. C'était trop compliqué, là. Ça m'épuise. Les relations. Qui a besoin de ça? Ben, on a tous besoin de ça. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est une bénédiction, mais c'est une bénédiction compliquée. Mais c'est là que la vie christocentrique se révèle, se manifeste. Donc, c'est dans la vie relationnelle. Ça commence, oui, dans l'intimité avec le Seigneur, dans ta relation avec lui. Ça commence là. Mais si ça demeure là, tu ne peux pas prétendre vivre vraiment une vie christocentrique, parce qu'une vie christocentrique, la vie que Christ a menée, c'est une vie centrée sur le Père, mais également sur les autres. Bon, dernière question de révision. C'est toute la révision, cela, là. Désolé, mais c'est de la révision. Qu'est-ce qui constitue la base de relations saines selon Éphésiens 5, 1 et 2? Regardez, Éphésiens 5, 1 et 2. OK. On va lire. Puisque vous êtes enfant bien-aimé de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, que toute votre vie soit dirigée par l'amour. Qu'est-ce qui est la base? Puisque, voilà, donc quand on dit puisque, c'est si ça c'est vrai, puisque ça c'est vrai, alors, OK, donc qu'est-ce qui est vrai à la base? Vous êtes enfant bien-aimé de Dieu, c'est ce qu'on a vu, frères et sœurs. C'est l'identité qui est à la base des relations saines. C'est quoi cette identité-là? Je suis enfant bien-aimé de Dieu. Une autre façon de dire que je vis une vie christocentrique. Je vais chercher Je vais chercher mon identité en Dieu. Et l'amour, l'accueil en Dieu, enfant bien-aimé de Dieu. Dieu a donné son Fils pour moi. Et puisque ça, c'est vrai, ben là, suivez l'exemple de votre Père, hein? Et que l'amour dirige toute votre vie. Marchez dans l'amour, à l'exemple du Christ. Donc, c'est quoi la base des relations saines au départ, là? C'est ton identité. C'est ton identité. Ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Où vas-tu puiser ton identité? Si tu mets ton identité dans tes performances, dans tes relations, dans tes avoirs, ben tout ça, ça va provoquer des conflits dans tes relations. Parce que là, moi je veux ça, ou je tiens à ça, mais l'autre, il vient faire obstacle à ça. L'autre, regarde, moi je veux que l'Église marche bien, mais regarde lui, là, regarde ce qu'il fait, là, regarde. Puis il m'empêche de faire la volonté de Dieu, là. Là, je suis en colère. On peut être égocentrique dans l'Église de Dieu. Même les pasteurs peuvent être égocentriques. Donc, l'identité, c'est la base. C'est la base. Ton identité constitue l'élément critique qui déterminera si tes relations sont saines et paisibles ou non. L'identité d'enfant de Dieu bien-aimé nous libère de toute attente malsaine envers les autres. Je n'ai pas besoin de ton respect. Je n'ai pas besoin de ton amour. Je n'ai pas besoin que tu collabores même avec moi. J'ai tout ce qu'il faut, moi, là, dans ma relation avec le Père, pour ce qui est de mon identité, de ma valeur, de ma sécurité, de tout ça, c'est en Dieu. Je suis recentré sur Dieu et ça me libère envers toi pour t'aimer comme Dieu t'aime, pour t'aimer comme Dieu m'a aimé. Suivez? C'est là que c'est tellement important. Ça nous permet de vivre des relations basées sur l'amour, des relations saines. Dans les dernières semaines, on a traité de cet élément-là, de l'amour. De l'amour. Et on a vu dans ce passage Éphésiens 5 quelque chose de concret, là. Quand on parle d'amour dans nos relations, quelque chose que l'amour fait ou ne fait pas dans nos relations. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là. Il y a deux éléments qu'on a vus dans ce passage-là. On a vu premièrement dans Éphésiens 5, verset 3, que la débauche ni aucune impureté ni la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous, ainsi comme il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles grossières ni propos insensés, équivoques, etc., etc. On voit que les sujets de conversation, l'amour va diriger les sujets de conversation qu'on a entre nous. Et je vais éviter de parler de choses qui vont te nuire, de parler des choses qui vont t'induire à t'éloigner de Dieu, finalement. L'amour va plutôt chercher à construire, à édifier, à rapprocher de Dieu. Donc, l'amour va contrôler les sujets de conversation. On a vu également que l'amour va nous amener à porter les fardeaux les uns des autres, dans Galates. Il dit « Portez les fardeaux les uns les autres et ainsi vous accomplirez la loi du Christ. » Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage-là. Les fardeaux, on a regardé c'est quoi un fardeau? C'est-tu un péché? Non, pas nécessairement. C'est quelque chose qui pèse lourd sur les épaules de ton frère, de ta sœur. Une maladie, une situation familiale difficile, une situation économique difficile, un problème spirituel, un problème émotionnel, des fardeaux. Qui ici n'a pas de fardeau? On a tous, hein? Ah, j'en ai. OK. Qui n'a pas de fardeau? Bien, c'est vrai. Merci, ma sœur. OK. Je vais reprendre la question. Qui ici a des fardeaux? Qui ici a déjà expérimenté que quelqu'un vienne à côté puis aide à porter son fardeau? Bien, c'est bon. C'est bon. OK. C'est l'amour, ça. C'est l'amour. Comment vivre dans la famille de Dieu? Dieu veut qu'on vive par amour et que l'amour, on s'aide à porter nos fardeaux. Hier, on faisait de la requête, Lorraine et moi. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut, là. J'ai pris cette photo-là. C'est un petit sapin qui est complètement courbé par le poids de la neige mouillée, complètement à terre. Ça, c'est quelqu'un qui vit un gros fardeau. C'est quelqu'un qui vit un gros fardeau. Mais regardez ce que j'ai trouvé un petit peu plus loin. Encore un petit sapin ici, là, et embourbé de neige lourde, mais regarde ce qui se passe. Il n'est pas courbé, pourquoi? Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 petits amis autour. C'est beau, hein? C'est beau, hein? C'est ça. Oui. C'est le fun, hein? Porter les fardeaux les uns les autres. Oui. Puis, pour finir la révision, c'est ce qu'on a vu ici. C'est une diapo chargée. Mais en réalité, c'est notre alliance relationnelle. À l'Église ici, en haut, on ne le voit pas bien, mais... L'Église a adopté cette alliance relationnelle il y a quelques années. on a dit, selon les Écritures, là, à quoi qu'on s'engage quand on rentre dans cette Église-là? Quelles sont les valeurs, quelles sont les choses qu'on considère comme importantes dans nos relations, puis à quoi qu'on s'engage? Et c'est ça qu'on a fait. Et toute la série sur la famille de Dieu, on a vu ça. Accueil, humilité spirituelle, patience et persévérance. On a vu édification. On a vu unité et collaboration. La réconciliation, on l'avait vu il y a 2 ans dans une autre série. On a vu intégrité dans le sens de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Et j'ai gardé l'amour pour la fin. J'ai gardé l'amour pour la fin parce que, en réalité, l'amour sous-tend toutes ces choses-là. Hein? L'amour sous-tend toutes ces choses. Puis pour terminer la série, j'aimerais regarder brièvement avec vous encore sur l'amour. Là, je vous invite à tourner dans 1 Jean, vers la fin du Nouveau Testament, juste avant l'Apocalypse. Il y a l'Évangile de Jean, puis après ça, il y a 1, 2 et 3 Jean, qui sont des lettres que l'apôtre Jean a écrites. 1 Jean 3, 16. Il dit, « Voici comment nous savons ce que c'est d'aimer ou ce que c'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour les frères. » Oh, wow! Quand on parle d'amour, c'est beau, hein? On va faire attention à ce qu'on dit dans le sujet de conversation. Je veux bien aider mon frère et ma sœur à porter son fardeau. Mais là, ce qui est dit ici, c'est une autre coche. Hein? Jésus a donné sa vie pour nous. Qu'est-ce qu'il dit? Nous devons donner notre vie pour les frères. Wow! Oui.
Tu veux dire donner ta vie pour ton frère. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu vas tuer, tu vas l'éliminer. Tu vas. Il est malade, je ne peux pas faire grand-chose. Même si je me tue, je ne t'aiderai pas plus, moi-là. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Donner sa vie pour les frères. Alors, je suis content que tu poses la question parce que pour les 20 prochaines minutes, on va essayer de répondre à ça. Ça veut dire quoi, ça, donner notre vie pour nos frères? Mais si on continue à lire, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ou dans la version sommaire, si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu peut-être présent en lui? Est-ce que ça commence à répondre un petit peu? Tu vois ton frère, ta sœur dans le besoin financier. Ah non, moi, je n'embarque pas là-dedans. Ah non, non, ça, c'est ses troubles, c'est ses problèmes, je n'embarque pas là-dedans. Ah oui? OK. Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit « Arrangez-vous avec vos troubles » Non, hein? Est-ce que donner sa vie pour les frères, ça veut dire que je considère voir comment je peux aider mon frère, ma sœur qui vit une passe difficile financièrement? Sûrement, hein? Je veux dire, quand on dit donner sa vie pour ses frères, tout de suite, on commence à mettre des limites. On dit, OK, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait définir? Non? OK. Est-ce que je peux vraiment te donner une réponse, ma sœur? Non. Parce que Il n'y a pas de limite à ça. Mais l'exemple qui est donné, c'est l'amour du Christ. L'amour du Christ. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et il a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Ça, on l'a lu dans Éphésiens 5, 2. On l'a vu, ça. Alors, à l'exemple du Christ, ici, la phrase sommaire que je veux vous apporter, c'est que l'amour sacrificiel constitue la base d'une vie christocentrique. Une vie christocentrique est une vie xénophilique. C'est quoi xénophilique? C'est quoi la xénophobie? Oui, xénos, ça veut dire étranger en grec. Phobie, ça veut dire peur. OK? Xénophobie, ça veut dire on a peur des étrangers, des immigrants, on a peur. Hein? C'est pas beau. Xénophilique, ça veut dire quoi? C'est le contraire. C'est philéo. Ça veut dire tu aimes celui qui est différent de toi. Xénos, à la base, ça veut dire différent. Okay? Fait qu'une vie christocentrique, c'est une vie xénophilique. C'est une vie qui aime les autres. Alors, dans Éphésiens 5, on a lu que Christ, l'exemple de Christ, il a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Je crois que le sacrifice, comme il est mentionné ici, on comprend que c'est à la croix, c'est lorsque Jésus-Christ est mort, il a versé son sang pour nous comme un agneau qu'on sacrifiait dans l'Ancien Testament pour couvrir le péché, sauf que cet agneau-là, l'agneau de Dieu, lui, son sang ôte le péché de tous ceux qui viennent à lui. Mais il parle d'une offrande aussi, comme une offrande. Une offrande. Une offrande, c'est quelque chose que quelqu'un apportait au temple pour offrir à Dieu. OK? Ça n'avait pas nécessairement une valeur rédemptrice. Ça veut dire que ça ne pouvait pas enlever leur péché, mais c'est une offrande à Dieu. Et je ne voudrais pas être dogmatique là-dessus, mais je crois que l'offrande de bonne odeur à laquelle l'auteur fait référence ici pourrait représenter la libation, ou libation, c'est quelque chose de liquide, l'huile parfumée, qui était versé sur l'autel des parfums et qui représente la vie de Christ vécue sur la terre. Donc, on a le sacrifice à la croix, qui a été le sacrifice qui enlevait nos péchés, mais toute sa vie avant d'aller à la croix, c'était comme une offrande de bonne odeur à Dieu. Il offrait sa vie par amour. Donc, il nous a aimés et il a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice. Donc, avant d'aller à la croix puis livrer vraiment sa vie, mourir, hein, comme Ginette disait tantôt, là, est-ce que ça veut dire tout le temps mourir là, physiquement, donner ma vie? Non. Avant d'en arriver à ce sacrifice ultime-là, toute sa vie a été un genre de sacrifice, un genre d'offrande de bonne odeur à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vécu dans l'amour. Il a vécu à travers nous. Il a vécu en fonction des besoins des autres. Et ça, ça plaît à Dieu. Ça a été comme, « Ah, oh, c'est bon, ça! » Oui, Martial. Ouais. 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 Oui. Oui, le bon samaritain, ça en est un bon exemple. Oui. Oui, c'est ça. Donc, ça me coûte quelque chose. Ça me coûte quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas nécessairement mourir, mais il faut quand même que je meure à moi-même pour être tourné vers les autres et essayer de vivre en fonction des besoins que mes frères et sœurs peuvent avoir. Donc, l'offrande, c'était la vie d'amour de Jésus, une vie vouée à Dieu et au service des autres. Ce sacrifice de sa vie quotidienne n'est pas en soi rédemptrice, mais c'est-à-dire qu'elle ne peut pas purifier nos péchés. Non, il a fallu qu'il donne sa vie à la croix pour ça, que son sang coule jusqu'à la mort pour ça. Mais sa vie quotidienne fut également un sacrifice d'une bonne odeur à Dieu, car vécu dans la sainteté et dans l'amour. Et Paul dit, marchez à l'exemple du Christ qui a fait ça. Marchez à l'exemple. Donc, on a l'exemple du Christ. Ensuite, on a l'exemple de Paul aussi, de Paul et de ses collaborateurs. Paul dit dans 2 Timothée 4, 6, « Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. » Donc, on voit ici Paul qui dit à peu près la même chose. Une libation, c'est pas un sacrifice qui peut enlever le péché, c'est une offrande. C'est une offrande. Et j'offre ma vie, même jusqu'à la mort, parce que mon temps est arrivé, le moment de mon départ. Et il dit aux Philippiens, dans Philippiens 2, 17, « Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis. » Fait que Paul est en train de dire, « Regarde, ma vie, là, c'est comme un vase, hein, comme on voit dans les Écritures, un vase d'albâtre rempli de parfum. » Il dit, « Ma vie, là, je ne la garde pas pour moi-même. Je suis prêt à la verser pour vous. » Parce qu'il dit ça aux Philippiens. Je suis prêt à la verser, ma vie, pour vous. Pour accompagner votre sacrifice à vous. Regarde ce que Paul dit aussi aux Thessaloniciens. Il dit, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice ou une mère prend soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement de vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Est-ce que Paul a donné sa vie? Non, pas dans le sens de mourir, mais il était prêt à aller jusqu'à ce point-là, et sa vie a été dépensée pour les Thessaloniciens, et même il aurait été prêt à aller jusqu'à la mort pour eux. Mais c'est par sa vie, par son implication auprès d'eux, par sa douceur, par ses soins, ses tendres soins envers eux, son implication dans leur vie. Est-ce que ça commence à répondre? Paul est dit de Prisca et Aquilas, en Romains 16, 4. Mes collaborateurs dans le service du Christ Jésus, ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Je ne suis pas le seul à leur devoir gratitude, c'est aussi le cas de toutes les églises des pays païens. Wow! Wow! Prisca, la femme, et Aquilas, son mari, on les voit partout dans le Nouveau Testament. Tantôt, Paul les rencontre à Corinthe. Hein? C'est la première fois. Puis, il avait été chassé de Rome. Et là, il sert avec eux autres à Corinthe pendant une couple d'années. Après ça, eux autres, ils embarquent avec Paul. À son retour vers Jérusalem, ils arrêtent à Éphèse. Eux autres débarquent à Éphèse. Paul s'en va à Jérusalem. Il revient à Éphèse. Il les retrouve là encore en train de servir Dieu, en train d'instruire Apollos, un grand orateur qui avait connu Jésus, mais qui était un petit peu mêlé dans sa doctrine. Ils sont en train de l'aider, Apollos, à devenir encore un instrument plus efficace dans la famille de Dieu. On les voit partout. Un couple qui sert Dieu. Et il dit que eux autres, là, il leur doit sa vie. J'ai regardé, il n'y a personne qui sait c'est quoi là, l'événement, de quoi Paul... De quoi Paul parle, à quoi il fait référence quand il dit qu'ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne, on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi qu'il y a eu exactement. Sais-tu à Éphèse quand il y a eu la grosse émeute, là, puis que Paul il voulait se présenter devant la foule, c'est marqué les frères, ils ont dit non, Paul, tu ne vas pas adresser la foule, viens-t'en. Est-ce que c'est là? Je ne sais pas. On ne sait pas. Mais il est clair que la vie de ce couple là était une démonstration évidente de l'amour qui se donne, qui se sacrifie. Ici, j'ouvre une parenthèse. Ça me fait penser à la question suivante. Est-ce possible de faire équipe ensemble en tant que couple pour aimer comme ça, au point où on est prêt à tout donner pour nos frères et sœurs en tant que couple? Souvent, comme on est habile à ça, on se dit, ben moi, Brian, moi, pour ma part, oui, mais c'est ma femme, excuse-moi, là, mais on rejette le blanc ou bien c'est mon mari. C'est un des avantages d'être marié, c'est que tu as toujours quelqu'un proche à qui rejeter, sur qui rejeter la blanc. Lui, il ne voudrait jamais laisser son fameux passe-temps pour qu'on serve vraiment le Seigneur ensemble. Ah, tu ne connais pas ma femme, Brian, elle, son petit confort, là, c'est très important. Moi, je voudrais bien aimer comme Paul, puis Apollos, puis Aquilas, mais servir, mais je n'ai pas l'épouse pour ça. Et pouf, comme par magie, on est dégagé, libéré. J'ai pu en faire avec ça, je suis dégagé comme un renard d'un piège. Mais, attends un petit peu. Le Seigneur, il est où là-dedans? Est-ce qu'il occupe vraiment la première place dans ton cœur ou c'est plutôt ton conjoint? Si tu as davantage peur de déplaire à ton conjoint que déplaire au Christ, c'est que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas la première place dans ton cœur. La Bible appelle ça de l'idolâtrie. Autre point, si ton conjoint n'est pas prêt à aimer les frères et sœurs comme Jésus, c'en est-il pour autant la fin de l'histoire? Que pourrais-tu faire pour la situation? Prier peut-être? Premièrement, pour ton propre cœur, qui ne se cache pas derrière cette excuse. Deuxièmement, pour toi et ton conjoint, pour que le Seigneur fasse découvrir qu'est-ce qui t'empêche ou qu'est-ce qui l'empêche de vouloir aimer comme ça. Y a-tu des craintes? Y a-tu des blessures anciennes? Y a-tu des mensonges auxquels on croit sur nous-mêmes ou sur Dieu? Y a-tu des conflits irrésolus dans le couple ou avec quelqu'un dans l'Église? Y a plein de possibilités. Juste dire, toi, tu ne connais pas ma femme, ou toi, tu ne connais pas mon mari, c'est facile. Mais tu vois qu'avec Dieu, c'est jamais la fin de l'histoire. Dieu peut agir si seulement je le veux vraiment. Prisca et Aquilas. Waouh, quel exemple! Et là, ils sont rendus à Rome, quand Paul écrit à Rome. Ils sont retournés à Rome, on dirait. Et Paul dit, je leur dois ma vie, et toutes les églises sont dans la gratitude. Wow! Quel beau couple, quel beau modèle pour nous. Moi, pendant des années, là, j'ouvre une parenthèse, puis j'ai l'approbation de mon épouse, je vais faire attention à ce que je dis. Pendant des années, moi, je voulais servir le Seigneur, hein, puis je m'impliquais, puis j'étais là. Mais on aurait dit que ma femme, elle me suivait moins, là. Elle me retenait quasiment. Et c'était comme une source d'irritation pour moi. Moi, je veux servir Dieu, mais Seigneur, donne-moi la femme pour. C'était drôle parce que mon épouse servait Dieu. Mon épouse voulait que je serve Dieu, que je sois un homme de Dieu. Mais là, lorsque je devenais trop occupé, elle devenait triste, elle se sentait délaissée, ça causait des tensions dans notre relation, des conflits même, qui revenaient constamment. Et là, j'étais en tourment parce que je disais, Seigneur, moi, je veux te servir, mais donne-moi la femme pour. C'est comme si le Seigneur est dans le bateau, là, sur le bord du lac, de la mer, puis il m'attend, puis moi, je suis là, puis je veux embarquer dans le bateau, puis j'embarque, puis OK, let's go, Seigneur. Il dit, il est où ta femme? Ah, ben, OK, je vais débarquer. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a montré que je faisais partie intégrante du problème. Ma femme voulait qu'on fasse une semaine de cœur à cœur pour voir qu'est-ce qui n'allait pas dans notre âme, dans notre cœur. Moi, je ne disais pas maintenant, j'ai trop d'autres choses à m'occuper, peut-être plus tard. Mais des conflits revenaient, ma femme souffrait, surtout de mon comportement surimpliqué et du fait que je ne prenais pas soin de son cœur. Finalement, après un autre conflit, elle a suggéré qu'on aille encore à cette formation-là, ce à quoi j'ai répliqué, « Vas-y, toi, si tu as des problèmes. Moi, je suis bien dans ma peau. » Tu ris, hein? Et moi, j'étais sérieux, là. Mais le Seigneur, il a ri aussi, oui. En tout cas, il a entendu. Il s'est arrangé pour me montrer que moi aussi, j'avais des enjeux dans mon cœur qui affectaient notre relation. Et finalement, que ça causait problème dans mes relations. Que ce n'était pas toujours la faute de tel un tel, tel un tel, tel un tel. Moi, je suis correct, c'est lui, c'est elle. J'ai accepté d'aller finalement cette semaine de cœur à cœur. Le Seigneur a guéri, restauré des blessures dans mon cœur. Il a arraché des mensonges auxquels je croyais sans même me rendre compte. Par exemple, le besoin de servir, le besoin de performer, même dans le ministère, au point qu'il n'y avait pas vraiment cet amour qui se sacrifie. Ce n'était pas une question d'amour. C'était une question de performance basée sur le besoin de me trouver acceptable, de me trouver un serviteur bien, là, fidèle. Là. Mais c'est encore centré sur moi. Je prêchais, je croyais faire du bien aux autres, mais sans m'en rendre compte, je le faisais pour moi. Pour montrer que j'étais utile, que j'étais un serviteur capable, fidèle, moi, que j'avais des connaissances et des capacités importantes pour les autres. Mais c'était pas mal centré sur moi, plus que je ne croyais. De plus, j'ai compris que lorsque je devenais trop occupé, ma femme souffrait. Elle ne se sentait pas aimée, comprise. C'est pour ça qu'elle ne montait pas dans la barque avec moi. Donc, je faisais partie intégrante du problème. Le Seigneur m'a montré d'où venait cette blessure dans son cœur. Le Seigneur m'a dit, prends soin d'elle. Aime-la comme je l'aime. Aime-la comme je t'aime. Ah! Tu veux dire, Seigneur, que le ministère auquel tu m'appelles, c'est autant de prendre soin de ma femme que de l'Église? C'est premièrement, oui. C'est premièrement. Mais je pensais que je prenais soin de ma femme. Mais souvent, on pense qu'on prend soin, mais l'autre, elle ne se sent pas pris soin d'eux. Je n'ai pas voulu faire vivre la négligence à ma femme. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à ce qu'elle vivait intérieurement. J'acceptais, lorsque mes comportements la blessaient, de reconnaître et de réparer. Et petit à petit, on s'est mis à avoir moins de conflits. De sorte qu'aujourd'hui, c'est chose très rare. Ce n'est pas impossible, mais c'est chose très rare. Et on a fait de plus en plus équipe pour le Seigneur. Alors, s'il y a de l'espoir pour moi et pour mon couple, il y en a pour le tien aussi. Il faut arrêter de rejeter le blâme, de penser que c'est l'autre qui m'empêche. Mon plus grand problème et le tien, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Comme le pasteur Paul Tripp le dit, je répète dans mes mots, le plus grand ennemi de mon âme est nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de mon être. Ce cœur égoïste, idolâtre et rebelle me cause infiniment plus de problèmes que le diable ou le monde. Si tu penses que le problème, c'est le diable, là, détrompe-toi. Jésus a dit dans Jean 14, « Le prince de ce monde vient, en parlant de Satan, il n'a rien en moi. » Exact. Et l'autre version dit, « Il n'a aucune emprise sur moi. » Le diable, là, il peut avoir emprise sur toi seulement si tu y laisses. Si dans ton être, tu es égocentrique, dans ton être, tu ne vis pas entièrement pour Jésus, là, Satan va, oui, il va avoir une influence. Oui, il va faire plein de choses. Ça ne veut pas dire que si tu es complètement christocentrique, il n'essaiera pas de t'attaquer. Il va le faire. Mais ton plus grand ennemi, là, c'est à l'intérieur. Il y a un traître à l'intérieur. Un traître. C'est là le problème. Donc, le couple, Prisca et Aquilas, quel beau couple, quel bel exemple. D'autres collaborateurs, on termine bientôt. Il y a eu également je vais revenir à ça. Il y a eu également Épaphrodite, que Paul dit dans Philippiens 2, 25. Il a été près de la mort dans son service pour les frères et pour moi. Près de la mort. Et Dieu a eu pitié de lui et de moi, il dit. Fait que Épaphrodite, il était tellement en train d'aimer les frères et sœurs qu'il s'est brûlé un peu, de quelque sorte, puis il est tombé malade. Ça peut aller jusque-là, donner sa vie. Épaphras aussi, à ne pas confondre avec Épaphrodite. Paul il dit, il combat dans la prière, il se dépense beaucoup pour vous. Donc, donner sa vie pour ses frères et sœurs, ça peut vouloir dire combattre dans la prière, se dépenser pour les frères et sœurs. Jean va dire plus loin dans son épître, « Petits amis, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action, en vérité. » Que notre amour ne se limite pas à des discours, des belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Et ici, on a un contre-exemple. Je ne suis pas fin, hein? Mais c'est nécessaire des fois pour nous réveiller. Paul, qu'est-ce qu'il dit aux Philippiens? Il dit dans le chapitre 2, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, ce que vous vivez. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, « Ben, voyons donc, l'apôtre Paul, il n'y a personne dans son entourage, à part Timothée, il n'y a personne qui prend à cœur les besoins des Philippiens. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Wow! Dans la version sommaire, c'est comme ceci. « Il n'y a personne ici en dehors de lui pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne, car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. » Imaginez, vous recevez une lettre comme ça. Vous recevez une lettre comme ça. Désolé de dire ça, mais il n'y a personne qui s'intéresse vraiment à toi. Wow! C'est triste. Et pourquoi personne ne s'intéresse à toi? C'est pas parce que tu n'es pas beau, belle, aimable. C'est parce qu'ils sont trop occupés à quoi? Ça fesse, hein, comme on dit en bon québécois, ça frappe. Force est d'admettre, frères et sœurs, que souvent, nos passe-temps, nos préoccupations, tout ce qui concerne nos intérêts à nous, là, ça occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'efforts. Est-ce que Paul, s'il venait à Saint-Félicien, il ferait le même constat? C'est triste, là. Hein? S'il fait le même constat de toi et de moi, de cette église. Hein? Tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. Quelle évaluation. Mais on va terminer avec un exemple positif. Paul dit aux Corinthiens, « Voici, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne serai point à votre charge. » Paul, il ne voulait pas avoir de salaire en allant à Corinthe. « Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. » Et voici ce qu'il dit. « Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. » Wow! Souvent, on peut se dire, OK, je dépense, je donne des choses, mais on ne se dépense pas nous-mêmes. On ne s'investit pas nous-mêmes. Mais Paul, il dit, je ferai volontairement des dépenses et je me dépenserai moi-même. L'image qui me vient à l'esprit, c'est une chandelle. Une chandelle brûle, mais elle diminue à mesure qu'elle donne la lumière. Mais en donnant la lumière, elle se dépense. Elle diminue comme ça. Paul dit, moi je suis prêt. Je suis prêt à faire ça. Es-tu prêt à faire ça pour tes frères et sœurs? Est-ce qu'on est prêt? À quoi ressemblerait une église? L'église de Saint-Félicien, à quoi ressemblerait l'église de Saint-Félicien si chacun disait, OK Seigneur, je compris. Je me repens de m'occuper de mes affaires, de passer le clair de mon temps, le clair de mon énergie, le clair de mon argent dans mes affaires, dans mes patentes, comme on dit en québécois. Je me repens de ça. Et je veux maintenant dépenser et me dépenser pour les frères et sœurs, par amour. Par amour pour toi, premièrement. Pas pour eux, pas parce qu'ils sont fins, qu'ils sont beaux, qu'ils sont capables. Parce que toi, tu m'as aimé et tu t'es dépensé pour moi. Amen. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ce temps ensemble dans ta parole. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous nourrit. Et Seigneur, on te prie que ta parole porte fruit dans nos vies. Pour la gloire de ton Fils Jésus. Amen. Je m'excuse, on a débordé. Fait que bonne semaine, frères et sœurs. On va terminer là pour aujourd'hui.